L'AS Magenta n'a pas franchi le mur du 7e tour de la Coupe de France. Hier après-midi au stade du Madeleine, les hommes de Pierre Wadjoka se sont inclinés 3-0 devant le FC Mulhouse. À la fin d'une belle expérience pour des jeunes en situation de handicap, ils viennent de passer un peu plus de 24 heures à Lille au Signal grâce à l'association La Table Ronde Française de Nouméa. En métropole, une messe qui fait polémique à Verdun, messe en hommage au maréchal Pétain. Le maire de la ville a voulu l'interdire, la justice administrative a autorisé cette messe. Les locaux de BFM TV évacués pendant plus de 2 heures cette nuit à Paris. Évacuation après que la préfecture de police a reçu un message indiquant la présence d'engins explosifs dans les locaux de la chaîne d'actualité en continu. Et puis le sport avec le rugby et la suite des test matchs internationaux. Après la défaite la semaine dernière face à l'Afrique du Sud, l'équipe de France affronte ce matin les Fidji. Coup d'envoi de la rencontre à 7h10. Cette nuit, l'Angleterre s'est imposée sur la Nouvelle-Zélande. Bonjour, excellent week-end, très bon dimanche et soyez les bienvenus dans ce journal à la une, l'actualité sportive avec du football. C'était l'événement de ce week-end et l'AS Magenta n'a pas fait d'exploit. Hier, les joueurs de l'ASM se sont inclinés au 7e tour de la Coupe de France face aux métropolitains du FC Mulhouse. Défaite 3-0 sur la pelouse du stade du Madeleine, Michael Gineski.
Il n'y a pas eu de miracle pour les Nouméens, éliminés après avoir joué en infériorité numérique pendant la plus grande partie du match, après le carton rouge pour Cameron Wadjeng dès la demi-heure de jeu à la suite d'un mauvais tacle. Une défaite logique face au club métropolitain qui évolue en National 3. Mais les vainqueurs de la Coupe de Calédonie ont tout de même montré un meilleur visage en deuxième mi-temps après avoir subi l'ouverture du score sur pénalty. Et ils ont su se remobiliser après une première partie de rencontre où la pression semble avoir pesé sur les épaules du collectif. Germain Aouéguéné, attaquant de l'AS Magenta.
Je suis fier des joueurs parce qu'on a tenu une mi-temps à 10. On a donné ce qu'on a pu et puis voilà, la vérité, quand tu joues avec peu d'expérience en Coupe de France et puis ben on est une jeune équipe aussi et puis voilà, il y a pas beaucoup de joueurs expérimentés à part quelques-uns, à part les cadres, notre capitaine avec notre gardien de but qui a fait un gros match, notre gardien de but, et puis ben on perd 3-0 mais voilà, on se laisse pas quand même abattre par ce score parce qu'on a eu quelques occasions franches. Et voilà, on est super content de notre jeu. Voilà. Il n'y a pas de regret parce qu'on s'est dit avec les garçons, on joue jusqu'au bout. Même si ceci, cela, mais voilà, c'est le match. Dans un match, tout peut arriver. On prend ce qu'il y a à prendre, on joue et puis voilà. 3-0, mais pas de regret.
La différence de niveau était surtout flagrante dans l'expérience du jeu. Le capitaine de Mulhouse, Cassé Mamanche, a félicité ses malheureux adversaires du jour.
On a été agréablement surpris. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de combativité. Ils sont agressifs dans les duels. Ils ne se sont pas arrêtés tout le match. Donc ça n'a pas été un match facile. On s'est rendu facile en marquant rapidement en deuxième mi-temps. Mais on reste quand même très très agréablement surpris par cette équipe qui nous a quand même causé pas mal de mal.
Le gardien Michael Hulil a été largement mis à contribution face aux assauts répétés de l'adversaire évoluant en 5e division nationale, mais ça n'aura pas suffi. La meilleure ennemie de Magenta finalement, c'était elle-même dans ce choc. Une défaite, mais un apprentissage nécessaire du haut niveau pour ces jeunes, reconnaît le coach de Magenta, Pierre Wadjoka.
On s'est mis dans la difficulté tout seul en voulant jouer très court derrière avec un terrain un peu abîmé, et puis ils nous ont mis un peu la pression, il fallait mettre le ballon devant pour qu'on puisse mettre le danger chez eux. On s'est mis dans la difficulté tout seul, au niveau du jeu, mais aussi le carton rouge. À 11 contre 11, c'était difficile. Je savais qu'il y avait quoi jouer. Il fallait simplement être patient. Ouais, et puis voilà, on voit le manque de maturité de joueurs. Ils apprennent, hein. Ils ont appris encore aujourd'hui. C'est de l'expérience. Ils vont apprendre, ils vont engranger de l'expérience et peut-être revenir l'année prochaine encore plus fort. Il n'y a qu'un joueur qui a joué la Coupe de France, c'est Djewine, le capitaine. Le reste n'ont jamais joué un gros match comme ça contre une Nationale 3. C'est la première fois. C'est quand on vit la situation qu'on comprend. Leur dire, ils ne comprennent pas.
De l'expérience qui est donc une nouvelle fois engrangée aussi pour le football calédonien, c'est ce que retient le président de la fédération, Gilles Tavergeux.
Très belle deuxième mi-temps à 10, mais bon, c'est vrai que le carton rouge de la première mi-temps plombe le match et c'est vrai qu'après ils se sont un peu libérés, mais bon, c'est de bon augure pour les prochaines rencontres de Magenta, mais c'est une équipe en devenir, j'ai vu qu'il y a pas mal de jeunes et ouais, ils ont eu un très bon gardien aujourd'hui, très bon.
L'AS Magenta espère que ces jeunes auront engrangé une solide expérience pour tenter à nouveau de passer ce 7e tour dans les années à venir. Le club de Nouméa, qui reste le seul du territoire à avoir franchi ce cap, c'était en 2010.
Dans l'actualité ce matin également, 12 enfants de 6 à 13 ans qui ont vécu de bien beaux moments dans le cadre de l'opération Les Voiles du Caillou, organisée par l'association La Table Ronde Française Nouméa. Ces enfants qui sont en longue maladie ou en rémission de maladie et dont le quotidien n'est pas toujours facile ont passé un peu plus de 24 heures à bord de 3 catamarans, mais aussi sur l'île au Signal. Une belle aventure pour ces enfants.
Je m'appelle Aurélien Roby, c'était bien. On a baigné, on a dormi là sur le catamaran. C'était bien, parce qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas parti en catamaran. C'était la première fois, puis c'est une première pour nous. Sortir de l'hôpital, de tout, je suis contente de ce voyage.
Henrik, bah on a fait une chasse au trésor, c'est amusé.
Oumouni, il est parti à l'île au Signal, c'est pour balader.
Clark, aujourd'hui on vient d'aller à l'île au Signal. Là-bas on a fait des petites activités. On a fait une chasse au trésor, on a baigné là-bas, on a caressé des tortues. C'est trop bien.
Les enfants étaient donc à bord de 3 catamarans. Ils ont été encadrés par les bénévoles de l'association La Table Ronde Française Nouméa, dont le président est Ladislas Loudou.
Je pense qu'on a réussi notre coup. Tous les enfants sont enjoués, souriants, sûrement très fatigués de toutes les activités qui ont pu leur être proposées au cours de ces deux jours. Alors déjà, pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois sur un catamaran. Donc il y a eu cette traversée jusqu'à l'île au Signal. Après, sur place, on avait des activités, kayak, baignade. On leur a organisé également une chasse au trésor, qui a été un moment fort à partager avec tous les tableurs et le personnel médical qui était venu avec nous. Et ben, c'est des enfants qui sont tous très courageux parce que soit en cours de soins, soit en rémission de longues maladies. Comme j'avais pu l'expliquer au départ de l'aventure, l'idée c'était vraiment de leur offrir une parenthèse dans ce quotidien qui n'est pas souvent très sympa.
Des propos recueillis hier après-midi sur les pontons de la baie de la Moselle par Kalinda Boakou. La commune de La Foix a célébré hier les 30 ans du jumelage avec la ville japonaise de Tsurioka. Le centre culturel de La Foix a accueilli les administrés qui ont pu découvrir l'exposition de différents objets japonais qu'ont pu rapporter les différentes délégations qui se sont rendues au Japon. Les festivités en présence de Yuko Ota, la consul générale du Japon. Écoutez Florence Roland, le maire de La Foix.
On était réunis une centaine de personnes, alors bien évidemment des anciens qui ont participé à mettre en place ce jumelage, parce que je vous rappelle que à l'époque, c'est une case qui est montée sur la commune de Tsurioka, et donc il y a un échange de procédés entre les Lafoyens et les habitants de Tsurioka sur la technique de montage de la case, case qui a été rénovée le mois dernier, où notre président, M. Lombardet, a pu partir et puis procéder à la rénovation de cette case qui s'était plus ou moins dégradée. C'est une satisfaction. On a pu échanger également avec la consul du Japon qui était là. Et puis, on peut d'ores et déjà affirmer que notre jumelage, notre partenariat avec Tsurioka, avec le Japon, sera renforcé. Je pense qu'on s'attellera un peu à peut-être faire des échanges, notamment au niveau culinaire, puisque c'est un art qu'il maîtrise à la perfection. Et nous verrons s'il y a possibilité de collaborer autrement sur d'autres thématiques qui nous rassemblent.
Florence Roland, joint au téléphone par Kalinda Boakou. Le retour à Nouméa avec quelques idées à vous donner pour votre dimanche, des idées de sortie avec le marché de l'art et de l'artisanat au centre culturel Chibaou. Bijoux, textiles, vannerie, cosmétiques, peintures ou encore sculptures sont à retrouver de 9h à 16h, c'est au CCT. Des ateliers créatifs et des prestations sont également à retrouver. Et puis animation à l'Aquarium des Lagons aujourd'hui avec un événement organisé par Sud Tourisme. La structure accueille le petit salon des activités touristiques à deux pas d'ici. C'est de 9h à 18h. Activités nautiques, aériennes, de plein air, randonnées et expériences culturelles sont à découvrir. L'entrée est libre de 9h à 18h à l'Aquarium des Lagons. Il est 7h10, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end avec l'actualité en métropole, on retrouve Lionel Sabou.
Et c'est une politique qui n'a cessé d'enfler depuis quelques jours. Elle concerne une messe en hommage au maréchal Pétain qui s'est tenue la nuit dernière pour nous à Verdun. Les propos tenus en marge de cette messe sont contraires à notre mémoire collective. Déclaration tôt ce matin de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui vient donc en soutien à la mairie de Verdun. La justice a autorisé ce rassemblement religieux contre l'avis de la mairie. L'office s'est donc bien tenu, mais la polémique elle se poursuit. Antoine Bienveau pour Europe 1.
À tel point que le préfet de la Meuse a annoncé tout à l'heure vouloir porter plainte pour propos révisionnistes après la tenue de cette messe, car certains membres de l'association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain qui organisait l'événement ont en effet expliqué sur place que Philippe Pétain aurait été le premier résistant de France. Des propos qui ont choqué notamment les habitants de Verdun, dont une centaine s'est rassemblée ce matin devant l'église pour s'opposer à la tenue de cette messe. Pas de messe pour Pétain, pas de facho à Verdun, un slogan longuement répété sous les yeux de Samuel Hazard, maire d'hiver gauche de la ville. Il s'était publiquement opposé à l'organisation de cette messe.
Comment peut-on prier pour l'âme de celui qui a contribué à la déportation et à la mort de femmes, d'hommes, d'enfants ? Pétain est l'antithèse de l'humanité. La République mérite mieux que ces attaques qui sont faites à celles et à ceux qui ont perdu leur vie alors qu'ils étaient les enfants de la France républicaine.
Dernière réaction en date, vous l'avez dit, celle de Laurent Nunez qui sur ses réseaux sociaux condamne ce soir fermement toute tentative de réhabilitation d'une figure liée à la collaboration et à l'oppression.
Antoine Bienveau pour Europe 1. On est métropole toujours. Les locaux de BFM TV évacués pendant plus de 2 heures cette nuit pour nous à Paris dans le 15e arrondissement. Les programmes ont également été coupés. Évacuation après que la préfecture de police de Paris a reçu un message indiquant la présence d'engins explosifs dans les locaux de la chaîne d'info. On continue. Menace prise donc très au sérieux par les autorités. Écoutez, Paul Conge, il est du service police-justice de BFM TV.
Toute la rédaction de BFM TV donc a été évacuée autour de 15h20 après la réception par la police parisienne d'un message menaçant dans lequel un individu anonyme affirme avoir déposé des engins explosifs dans les locaux et menace de faire sauter le bâtiment. Alors ce message a été reçu par les policiers parisiens et jugé suffisamment inquiétant pour que la préfecture de police décide donc de boucler le quartier, compte tenu notamment du plan Vigipirate urgence attentat qui s'applique en ce moment et aussi de la date des faits, 2 jours après les commémorations du 13 novembre. Et donc le responsable sécurité de BFM TV, la direction de BFM TV a décidé d'évacuer totalement le bâtiment. Un périmètre de sécurité a été établi, les routes ont été coupées et des démineurs et des équipes cynophiles ont été dépêchés sur place et les chiens renifleurs ont donc sillonné le bâtiment étage par étage pour essayer de trouver des traces d'un éventuel produit explosif. L'alerte a finalement été levée vers 17h35.
Finalement, donc, il ne s'agissait que d'une fausse alerte. Les programmes interrompus pendant plus de 2 heures ont finalement pu reprendre normalement. Une tentative de braquage en plein cœur de la très chic avenue Montaigne à Paris, dans le 8e arrondissement. La boutique Chanel a été la cible d'une attaque à main armée à la mi-journée. Laura Legault pour Europe 1.
4 individus munis d'une hache et d'une arme à poing tentent de s'introduire dans la boutique d'horlogerie joaillerie Chanel. Certains portent des casques et des brassards de police pour tromper la vigilance. Les malfaiteurs utilisent leur scooter comme véhicule bélier pour tenter de forcer l'entrée du magasin. Mais l'agent de sécurité intervient rapidement. Il réussit à baisser la grille de protection, forçant les voleurs à rebrousser chemin. Les 4 individus repartent bredouilles sur leur scooter Yamaha T-Max, un modèle puissant, le même que celui utilisé par les braqueurs du Louvre. Chanel a précisé dans un communiqué de presse que l'agent de sécurité a été légèrement blessé et pris en charge par les secours. La boutique Avenue Montaigne reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Les 4 malfaiteurs sont, eux, toujours recherchés.
Laura Legault du service police-justice d'Europe 1. L'actualité politique à présent est la campagne pour les élections municipales de mars 2026 qui commence. Campagne que le Rassemblement national, qui a le vent en poupe dans les sondages d'opinion, notamment pour la présidentielle de 2027, prépare avec le plus grand soin. Le parti de Jordan Bardella devrait présenter un nombre inédit de listes pour ces élections municipales. Arthur Delaborde.
Une campagne peut en cacher une autre. Avant 2027, le RN mise aussi beaucoup sur les municipales de mars 2026. Cette fois, le parti veut transformer ses sondages stratosphériques en ancrage local. Plus de 530 têtes de liste déjà désignées et peut-être 700 d'ici février. Une présence massive pour gagner, mais aussi pour s'implanter durablement. Le RN met en avant ses vitrines conquises en 2020 comme Perpignan, tout en ciblant des villes longtemps jugées imprenables. Dans le sud, la stratégie est claire. Cap sur Toulon, Nîmes, Menton et aussi sur Marseille, où un sondage récent pour Politico place la liste RN-UDR de Franck Alizio au niveau du maire sortant Benoît Payan, 29% chacun au premier tour. Et au second, tout pourrait se jouer sur le maintien ou non de LFI. Pour le RN, l'enjeu dépasse le scrutin municipal. Une percée offrirait de grands électeurs, un poids inédit au Sénat et renforcerait encore la dynamique avant 2027. Une étape décisive sur la route de Marine Le Pen et de Jordan Bardella vers l'Élysée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe, puis l'actualité politique, c'est aussi l'Assemblée nationale qui est au repos forcé ce week-end. La suite de l'examen du projet de loi de finances est reportée à demain, lundi. Décision inacceptable pour la gauche. Certains députés accusent le gouvernement de chercher à raccourcir le temps des débats et donc d'empêcher un vote. L'ensemble du texte doit être remis au Sénat le 23 novembre, minuit au plus tard, ce qui laisse en fait 7 jours seulement aux députés pour débattre des près de 2000 amendements qu'il reste à examiner. Il est 7h17, une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons à l'actualité sportive et puis nous parlerons également météo.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Jusqu'au 12 décembre, gagnez un séjour dépaysant au Malibu Beach. Logez 5 nuits en bungalow jardin avec vue mer, petit déjeuner et dîner pour deux personnes. Profitez de la mer avec les kayaks mis à votre disposition, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance. Au 40-20, le Malibu Beach vous accueille toute l'année dans un cadre idéal pour se ressourcer et s'évader, en couple ou en famille. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20, tirage au sort le vendredi 12 décembre à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Info week-end, l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabou.
Oui, retour au sport, je vous rappelle que nous avons évoqué au début de ce journal le football avec la défaite de l'AS Magenta hier face au FC Mulhouse lors du 7e tour de la Coupe de France. Les vainqueurs de la Coupe de Calédonie qui se sont inclinés sur le score de 3-0. Venons-en au sport sur la scène internationale. À présent, Michael Juneski, on va parler rugby puisque le 15 de France dispute son deuxième test match d'automne. Les Bleus qui affrontent en ce moment les Fidjiens.
Exactement, un deuxième test match de novembre pour faire oublier la défaite contre les Sud-Africains le week-end dernier, 32-17. Pas question de rester sur un échec pour un effectif légèrement remanié avec deux Calédoniens, Rodrigue Netti sur le banc et Romain Taofifénois titulaire. C'est Grégory Aldrit qui assume cette fois le rôle de capitaine. Il faut repartir de l'avant et surtout ne pas se faire piéger par un adversaire qui a de l'ambition. Les Fidji peuvent poser des problèmes aux Français et promettent un combat intense. Une rencontre qui a débuté il y a quelques minutes seulement sur la pelouse du stade Atlantique de Bordeaux. Les Fidjiens ont aussi proposé leur Sibi, le Haka d'avant-match avant de lancer les hostilités. Le score est toujours de 0-0. À l'instant, 5-5.
De l'équipe de France.
À l'instant, on la prend donc un essai pour débuter la partie après seulement 4 minutes de jeu. Je rappelle parmi les autres résultats du jour que l'Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 33-19. C'est le premier succès du 15 de la Rose face aux All Blacks depuis 2019. Les Springboks, de leur côté, ont logiquement surclassé l'Italie 32-14, a signalé encore la victoire des États-Unis contre la Roumanie 26-18 et cette victoire sur le fil cette fois du Pays de Galles contre le Japon 24-23, c'était très serré pour les Gallois. En ce moment même, un autre match en cours, la rencontre Irlande-Australie et la nuit prochaine l'Écosse qui retrouvera l'Argentine.
Et l'Irlande qui mène 7-0 face aux Australiens. On passe au tennis avec les demi-finales du Masters de Turin.
Et Yannick Sinner qui s'est qualifié pour la finale du tournoi de fin de saison. saison sur le circuit mondial. L'Italien numéro 1 à l'ATP a dominé l'Australien Alex De Minaur 7-5, 6-2, un match mené de bout en bout. La deuxième demi-finale se dispute entre l'Espagnol Carlos Alcaraz, deuxième à l'ATP, et le Canadien Félix Auger-Aliassime. C'est-à-dire que les deux premiers joueurs mondiaux pourraient bien croiser le fer une dernière fois en cette fin d'année.
On passe au sport mécanique avec le Grand Prix de la Communauté de Valence de MotoGP. C'est en Espagne et Alex Marquez a remporté la course sprint.
Il a devancé son compatriote espagnol Pedro Acosta et l'Italien Fabio Di Gianantonio. Fabio Quartararo a terminé 7e et Johan Zarco 10e. Les Français qui s'élanceront respectivement des 6e et 11e places sur la grille de départ lors de la course principale ce soir. Fabio Quartararo lutte toujours avec une Yamaha dont les performances ne lui permettent pas de se battre à armes égales avec les meilleurs.
Je pense qu'on n'a pas le potentiel d'attaquer. J'ai qu'une chose à faire, c'est de défendre. Mais malheureusement, on voit les pilotes s'échapper devant nous. Plein d'entre eux font beaucoup d'erreurs. Nous, on ne fait pas d'erreurs et on n'arrive toujours pas à les rattraper. Donc bien sûr, c'est difficile, mais j'ai vraiment hâte que ça termine. Mais comme j'ai dit, je suis toujours sur la défensive et je n'arrive pas à attaquer, même à faire mes propres lignes au début. Donc c'est assez compliqué. Essayer de faire un bon départ, ensuite le résultat final, on ne sait jamais quoi espérer. Donc juste essayer de terminer, se mettre un dernier objectif, d'essayer de faire devant Aldeguer au championnat, même si c'est symbolique, mais essayer de faire ça bien.
Le dernier rendez-vous de la saison, c'est ce soir. L'Italien Marco Bezzecchi partira en pole position. Départ de ce Grand Prix de Valence de MotoGP à minuit.
Allez, retour sur le territoire avec la Shell Pacific Mega Rondo qui a réuni hier plus de 700 VTTistes. C'était à Bouraille.
Une épreuve organisée sur le domaine de Deva. La victoire est revenue à David Esposito sur le parcours phare de 45 km. Un temps final de 2h21 et 14 secondes d'effort. Il a devancé Olivier Bertholum d'à peine 3 minutes et Chris Jenner à exactement 8 secondes de la deuxième place. La meilleure féminine, Caroline Favier, a fini 15e au classement scratch. Elle a devancé chez les dames Sabrina Lelièvre et Gabrielle Fernandez. Plus de 700 participants qui étaient donc au rendez-vous, vous le disiez. Succès également sur l'épreuve de 35 km de Stéphane Roletto et sur 25 km du jeune Ethan Dacremont, classé moins de 17 ans.
Les finales de la Coupe de Calédonie de cricket se jouent ce dimanche et au stade Ndu à Nouméa.
Hier, lors des demi-finales, chez les messieurs, Beiromas s'est imposé en deux tapés par arrêt des arbitres 93 à 92. Et de son côté, l'ESCA a gagné face à Queenie Espoir, également en deux tapés 92 à 89. Chez les dames, la GSO a gagné face à Coné en deux tapés 144 à 52. Et Wedjumel s'est imposé face à Queenie en deux tapés par arrêt des arbitres 99 à 98. Les finales qui se disputent donc aujourd'hui chez les hommes, Beiromas opposé à l'ESCA, et chez les dames, la GSO rencontre Wedjumel.
Et puis vous avez encore quelques rendez-vous pour ce dimanche et notamment, Mickaël, la Blues Cup Race.
Le rendez-vous multisport de glisse nautique, à la voile ou à la rame, windsurf, kitesurf, kayak, vague, catamaran, voilier et d'autres encore, ils s'élanceront tous pour un raid longue distance entre le Faramédé et l'Ansvata, catégorie par catégorie tout au long de la matinée à partir de 9h30. Entre terre et mer, cette fois, l'Olympique Nouméa Triathlon organise ce matin également un swim and run, 1,6 km de natation et 6,5 km de course à pied entre le Méridien et la baie des Citrons. Ce dimanche encore, l'événement Enviro au parc de la Rivière Bleue. C'est une course d'orientation sur la thématique de l'environnement organisée par le club Convergence. Et puis hors du territoire, du futsal, la SPTT, vainqueur de la Super League 2024, participe à la O-League à Suva aux îles Fidji. Les joueurs de la SPTT affronteront dès 15h les derniers finalistes de cette Ligue des champions d'Océanie, les Salomonais du Matak FC.
Merci Mickaël, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Un beau soleil ce matin au-dessus de Nouméa. Thierry, est-ce que ça va durer?
Oui, ça se voit déjà avec un voile de nuages élevé qui s'invitera. Oh. Donc, ça, on croit que nuages seront accompagnés d'averses. S'ils aborderont l'extrême sud, ça sera en cours de matinée. On va voir ça un peu plus tard. Le vent, lui, 10 à 15 nœuds, ça sera le maximum pour ce matin. Il sera orienté est à sud-est. Il oscillera donc entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, quelques nuages circuleront sur la pointe sud, l'île des Pins et le sud des Loyautés, provoquant des averses isolées sur le relief. De courtes averses se produiront en fin d'après-midi. Ailleurs, le soleil, parfois voilé, restera de mise. Le vent, alors, pour cet après-midi, 10 à 15 nœuds en général. Il se renforce entre 15 et 20 nœuds sur l'ouest, voire 20 nœuds et jusqu'à 30 nœuds en rafale sur le sud-ouest. Les températures sont stables, localement légère augmentation sur l'ouest. Elles s'échelonnent entre 27 et 31 degrés, Lionel.
Merci beaucoup Thierry, c'est la fin de ce journal. Il est 7h24. Merci de nous avoir suivis. Journal qui sera disponible d'ici quelques instants sur notre site internet, le 3rb.nc. Je vous souhaite de passer une très belle matinée avec nous. Et on part sur la route tout de suite.